Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, nous sommes vers la fin de notre week-end de rentrée, comme nous l'avons dit au début de ce culte, et dont le thème est « Une église qui prie ». Les jours précédents, nous avons parlé de la prière collective adressée au Dieu unique, à celui à qui revient toute gloire. Nous avons analysé durant ce week-end notre propre manière de prier. Nous avons confessé que bien souvent, nos besoins personnels passaient avant la gloire de Dieu, avant le soupir que son règne vienne. Et nous avons aussi prié durant ce week-end, et nous l'avons fait aussi durant ce culte, à plusieurs reprises. Nous avons pris le temps pour ça. Parfois, on dit qu'on n'a pas le temps de prier, mais là, on a pris le temps de prier ensemble. Et cet après-midi, nous parlerons encore de la prière, en le mettant en lien avec la mission, ou pour reprendre les termes du texte, en lien avec la moisson. Et je me suis livré au même exercice que Michael. J'ai cherché des images sur Google. Maintenant, tu as lancé une mode. En tapant le mot « moisson ». Donc, alors, je ne pense pas que les premiers lecteurs avaient en tête une telle image de la moisson. Aujourd'hui, ça ressemble à peu près à ça. Mais ils avaient plutôt l'idée, peut-être quelque chose qui se rapprocherait de ces images-là. Des gens qui travaillent dans la moisson, avec leurs mains. Merci Google, encore une fois, pour ces images. Et dans le texte que nous venons de lire, il est question du ministère de Jésus lorsqu'il était sur terre. Matthieu, qui est l'auteur de ce récit, nous rapporte de manière résumée tout ce que Jésus faisait. Et ce résumé prépare la suite du texte où nous avons cette liste des 12 disciples de Jésus qui vont accomplir la même chose que le maître, à savoir proclamer la bonne nouvelle du royaume et faire des miracles, opérer des guérisons qui confirment et qui accompagnent ce message. Autrement dit, dans cette section, nous passons du ministère de Jésus à l'envoi en mission des 12 disciples. Et entre les deux, donc entre le ministère de Jésus et l'envoi en mission des 12 disciples, nous avons cette déclaration de Jésus. Au verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Autrement dit, nombreux sont ceux, celles et ceux qui sont prêts à accueillir la bonne nouvelle, mais il y a peu de personnes pour la leur annoncer. Donc, Jésus envoie ses disciples pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson. Mais n'oublions pas une étape qui est fondamentale. Jésus demande d'abord à ses disciples de prier le maître de la moisson. Et cet après-midi, j'aimerais me concentrer sur ce passage-là, entre les versets 35 et 38. Relisons le verset 35 ensemble. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Et le lecteur attentif, qui est en train de lire l'évangile de Matthieu, va se souvenir que Matthieu a déjà écrit cela un peu plus tôt, quelques chapitres avant, et notamment au chapitre 4. Comparons les deux passages. Chapitre 4, verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Entre le verset 4 et le verset 9, le ministère de Jésus n'a pas changé. Il est toujours en train d'enseigner. Il est toujours en train de proclamer aux foules la bonne nouvelle. Il est toujours en train de guérir les malades qui venaient à lui. Et ils étaient nombreux. Et pour avoir une vision globale, et pour pouvoir aussi nous situer en même temps là où nous en sommes, eh bien, entre le chapitre 4 et le chapitre 9, il y a d'autres chapitres. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve dans les versets, dans les chapitres 5 à 7, la partie enseignement, puisque c'est ce que Jésus faisait. Donc, il enseigne, et c'est ce fameux passage du sermon sur la montagne. Et puis, entre les chapitres 8 et 9, qu'est-ce qu'on trouve ? Un peu moins d'enseignement, mais beaucoup d'actes. Jésus fait des miracles, Jésus guérit, Jésus chasse des démons, Jésus ressuscite une jeune fille. Vous voyez, on a ces deux parties, enseignement et puis les actes. Et puis en fait, le passage d'aujourd'hui arrive à la fin de tout cela. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qui a été raconté. Et donc on a ce résumé du ministère de Jésus. Un ministère qui est particulièrement fructueux, mais en même temps un ministère qui est prenant. Voilà où nous en sommes. Et puis nous lisons au verset 36, « À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car ils étaient blessés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Nous pourrions nous demander, avec toutes les personnes qui venaient à Jésus, comment faisait-il pour gérer la foule, pour gérer la pression ? Il y avait tellement d'attentes à son sujet. Et dans les évangiles, Jésus est décrit comme une personne profondément compatissante. Car il voyait, et d'ailleurs il voit encore aujourd'hui, les besoins de celles et ceux qui viennent à lui. Il voyait ses besoins et aujourd'hui encore il les voit. Et à cette époque, en voyant tous ces gens blessés et abattus, Jésus éprouvait une vive émotion au fond de lui, qui explique pourquoi il prenait le temps d'enseigner cette foule, pourquoi il prenait le temps de guérir ceux qui étaient malades. Et en fait, cette compassion du Seigneur à l'égard de son peuple n'est pas nouvelle. Ce n'est pas parce que Jésus est arrivé que tout d'un coup, Dieu est devenu plus compatissant. Non, ce n'est pas une nouveauté. Et souvent, si on lit trop vite l'Ancien Testament, nous avons tendance à oublier que Dieu a exprimé dans l'Ancien Testament cette compassion à l'égard d'Israël. Et j'aimerais vous inviter à voir avec moi ce texte qui est peut-être, et qui est sans doute, à l'arrière-plan de notre passage dans Ézéchiel chapitre 34. Nous allons parcourir un peu ce chapitre et nous allons d'autant mieux comprendre pourquoi Matthieu nous raconte tout ce qu'il est en train de dire concernant Jésus. Dieu s'adresse à Ézéchiel et lui dit « Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin ? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues et vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. » Ici, Dieu s'en prend aux mauvais dirigeants qui n'ont pas pris soin du peuple d'Israël. Ils n'ont pas pris soin du peuple d'Israël comme des bergers devraient le faire pour des brebis. Et c'est aussi l'image que nous avons dans Matthieu 9. Des brebis blessées, abattues à cause de responsables du peuple qui ne savent pas prendre soin du troupeau. On peut, par exemple, penser à cette époque aux pharisiens qui étaient tellement stricts sur le respect de la loi que ça en devenait un fardeau pour le peuple. Donc des brebis blessées et abattues. Mais continuons la lecture d'Ézéchiel 34. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. » Et un peu plus loin, il continue, « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. » C'est là que nous retrouvons, dans ce texte-là, la compassion de Dieu. Celle que Jésus lui-même éprouve en voyant son peuple sans berger. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. C'est exactement ce que Jésus a fait durant son ministère. Et je ne peux pas arrêter là la lecture d'Ézéchiel 34. Alors écoutons encore ce que l'Éternel annonce un peu plus loin, au verset 23. « Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elle. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. » C'est juste magnifique. Dieu annonce par le prophète Ézéchiel qu'il va remplacer ses mauvais bergers par un bon berger, son serviteur David. Alors comprenons bien qu'il ne s'agit pas du roi David, qui est déjà mort à cette époque-là, mais d'un descendant du roi David. Et nous savons, avec Matthieu 9, avec d'autres textes, que Jésus est ce berger que le peuple attendait. Nous avons d'ailleurs, un peu plus tôt dans le culte, lu Jean 10, Jésus est le bon berger. Maintenant que j'ai dit tout ça, relisons encore une fois le verset 36. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà le contexte qui explique ce que Jésus déclare tout de suite après. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Toutes ces foules, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont sans berger, il faut bien en prendre soin. Et la moisson est grande. La moisson est grande, avec peu d'ouvriers. Jésus voit la foule, il est ému de compassion, il a commencé à prendre soin de ses brebis sans berger. Et il va continuer à le faire, mais pas tout seul. D'où son constat, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, si on y réfléchit un petit peu, est-ce que Jésus dit ça pour décourager ses disciples ou pour les culpabiliser? Sous-entendu, vous voyez tout le travail qu'il y a à faire avec ces gens? Il faudrait quand même se mettre en mouvement, il faudrait un peu se bouger. Faire quelque chose, vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire ici? Je ne crois pas que ce soit le ton que Jésus prend. Comment Jésus pourrait-il reprocher à ses disciples de ne pas se mettre en mouvement alors qu'il ne les a pas encore envoyés en mission? Il ne les a pas encore envoyés en mission. Il ne peut pas leur faire de reproches. Et vous connaissez la suite du texte. Après ces paroles-là, Jésus envoie ses disciples en question. Et pourtant, j'ai l'impression que parfois, nous pouvons utiliser ce verset, précisément qui est coloré, plus ou moins, que nous pouvons utiliser ce verset à tort comme pour culpabiliser les gens ou pour se culpabiliser soi-même, en se disant « aïe, 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 la moisson est grande et c'est vrai, il y a tellement peu d'ouvriers ». Il faut que je fasse quelque chose, une mission, une action d'évangélisation. Il faut que je sorte dans la rue. Mes amis, revenons au contexte de ce verset. C'est dans le cadre de son ministère, de ce que Jésus est en train de voir, que Jésus fait constater cette réalité. La moisson est grande. Les gens sont prêts à entendre la bonne nouvelle, à revenir à Dieu, à changer de vie. Mais comme l'ont remarqué les disciples, Jésus est un peu le seul à travailler dans cette moisson. Et avant lui, il y avait Jean-Baptiste qui avait préparé le terrain. Mais en fait, il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, nous pouvons aussi faire le constat que la moisson est abondante. On le suppose en fait seulement, parce que nous n'avons pas le discernement de Jésus. On suppose que la moisson est grande. Mais qui pourrait affirmer avec certitude qu'il y a par exemple des milliers de personnes prêtes à entendre l'évangile dans la ville de Saint-Maur ? Qui pourrait l'affirmer avec certitude ? Nous n'avons pas le discernement de Jésus, mais nous pouvons le supposer. Par contre, nous sommes certains qu'il y a du travail pour les ouvriers que nous sommes. Dire que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, c'est affirmer qu'il y a du travail, qu'il faut du monde pour annoncer l'évangile. Et ce verset n'est vraiment pas là pour nous culpabiliser ou pour nous rappeler, mais simplement pour nous rappeler qu'il y a encore du travail. Hier, nous parlions des sujets qui nous dépassent et cela en fait partie. Et ce n'est pas pour nous décourager lorsqu'on dit « la moisson est grande ». C'est plutôt une grâce. Dieu fait grâce abondamment. Quand on dit « la moisson est grande », c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à accepter le salut de Dieu. Mais c'est Dieu qui les attire à lui. C'est une grâce. Nous ne pouvons pas utiliser ce verset pour culpabiliser les autres. Par contre, en disant « la moisson est grande », cela nous pousse à une autre attitude. Et c'est à cela que j'aimerais vous inviter à regarder de plus près. S'il n'y avait pas le verset 38, le dernier verset de ce passage, nous serions peut-être déjà dans le feu de l'action, en train d'annoncer à qui veut l'entendre que Jésus est celui qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a le verset 38, qui est tellement important et qu'on a tendance à sauter, et où Jésus parle de la prière. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est essentiel de comprendre ce que Jésus est en train de dire pour comprendre notre mission aujourd'hui. Si la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, seul le maître de la moisson, c'est-à-dire Dieu, peut résoudre le problème. Si un jour vous passez près d'un champ qui a besoin d'être moissonné et que vous voyez deux, trois ouvriers moissonner à la main, vous aurez peut-être pitié d'eux. Mais qu'allez-vous faire ? Est-ce que vous allez entrer dans le champ pour leur donner un coup de main ? Non, à la rigueur, si vous avez envie d'aider, vous allez vous adresser au propriétaire pour savoir s'il a effectivement besoin de vous. C'est à Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est Dieu, le maître, qui connaît le nombre exact de personnes prêtes à entendre l'évangile et à le suivre. Mais quelle est notre part dans l'histoire ? Notre part, avant de passer à l'action et devant l'ampleur de la tâche, c'est de nous adresser à Dieu et de lui demander, collectivement, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et aussi longtemps que la moisson sera grande, aussi longtemps qu'il y aura du travail, eh bien aussi longtemps il faudra demander au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et c'est dans ce sens-là que nous allons prier pour ces projets d'évangélisation que nous avons évoqués, que nous avons ici à Saint-Maur, que nous avons là à Auxerre, que nous avons là-bas au Sénégal. Prions que Dieu envoie des ouvriers. Et rien ne dit que ces ouvriers-là, ce soit nous. Est-ce que vous croyez que le peu d'ouvriers est un vrai problème pour Dieu ? Dans sa souveraineté et dans sa toute-puissance, Dieu a assez d'ouvriers. Certains sont déjà sur le terrain, d'autres se préparent et d'autres ne savent pas encore que Dieu va les envoyer. mais rien ne garantit que nous serons les ouvriers que Dieu envoie dans ces champs-là. Jésus avait plus que 12 disciples qui le suivaient. Et comme nous le voyons au chapitre 10, il ne les a pas tous envoyés. Il en a envoyé 12. Et on pourrait encore se dire, mais ce n'est pas beaucoup. Mais il en choisit 12 et il les envoie. C'est lui, c'est Jésus, lui le maître de la moisson, qui choisit ses ouvriers et qui les envoie. Parce que la moisson est grande. Il les choisit et il les envoie. Mais c'est lui qui décide. Dans notre église, nous avons des projets. Nous voyons même les besoins. Nous sommes peut-être même émus de compassion. Mais avant de nous lancer dans l'action, nous devons prier et prier ensemble, en église, que Dieu envoie des ouvriers et peut-être ce sera nous. Peut-être. Mais si nous ne prions jamais pour cela et que nous nous lançons dans l'action, est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu ? Encore une fois, c'est au Seigneur de choisir ses ouvriers. Et lorsque nous prions ainsi, en Église, ensemble à ce sujet-là, nous ne tombons pas dans le piège de nous attribuer une mission qui n'est finalement pas la nôtre. Mais nous nous soumettons ensemble à celui qui envoie. Et si le Seigneur nous envoie, nous irons. Si le Seigneur nous envoie, nous irons avec la force de son esprit et dans la joie de moissonner pour Christ. Mais si seulement le Seigneur nous envoie. Jésus est venu pour être le berger des brebis perdues d'Israël, comme l'avait annoncé Ézéchiel. Or, nous savons que sa mission avait une portée plus large. Dans Matthieu 10, Jésus dit à ses disciples de ne pas se rendre ailleurs qu'en Israël. Et c'était une mission temporaire. Mais dans Matthieu 28, à la fin de l'évangile, Jésus ressuscité envoie ses disciples vers toutes les nations. Et le champ de leur mission s'élargit. La moisson est grande, rien de moins que le monde entier. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens annoncent le même message. Jésus, Dieu fait homme, a vécu sur cette terre la vie parfaite que nous étions incapables de vivre. Et il est mort atrocement sur la croix, subissant le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés contre Dieu. Et Dieu étant juste, il fallait bien payer pour nos fautes. Et c'est Jésus qui l'a fait de manière volontaire, par grâce et par amour pour nous. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité, approuvant son sacrifice. Et la bonne nouvelle, c'est que quiconque sur cette terre croira que Jésus a vraiment fait ça pour lui, pour elle, sera pardonné de ses péchés et qu'il recevra la vie éternelle avec Dieu. Est-ce que déjà tu le crois en ce message-là? Et si oui, veux-tu partager cette bonne nouvelle aux autres? Et je te pose la question parce que la moisson est grande, parce qu'il y a peu d'ouvriers. Mais que la solution, c'est que nous puissions prier le maître de la moisson d'envoyer qui il veut. Et assurément, c'est une prière que le Seigneur exauce. Et vous savez quoi ? Depuis 2000 ans, Jésus envoie ses disciples annoncer cette bonne nouvelle. J'aimerais vous inviter, comme nous avons eu l'occasion de le faire aussi durant ce week-end, que nous puissions nous mettre par deux, par trois, que nous puissions prier, justement, que nous puissions appliquer ce que le Seigneur nous demande dans ce texte, que nous puissions nous regrouper par deux, par trois, mais je demanderai dans chaque groupe que vous puissiez simplement choisir une personne qui prie. Une personne qui prie. Prions que Dieu envoie des ouvriers à Saint-Maur, à Auxerre, au Sénégal. Et peut-être que ce sera nous. Donc je vous invite à prier dans ce sens-là. Si on peut se lever et simplement se regrouper avec nos voisins par deux, par trois. Prions ensemble. Notre Père, nous reconnaissons que nous avons encore besoin d'apprendre et d'être attentifs à ce que tu nous révèles dans ta parole. Tu nous demandes, Seigneur, et plus exactement, c'est notre Seigneur Jésus qui incite ses disciples à prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous n'avons pas fait cette prière-là et où peut-être, de manière présomptueuse, nous nous sommes lancés tout seuls dans une mission qui n'était pas la nôtre. Mais accorde-nous la grâce maintenant de ne pas faire cette erreur et de pouvoir d'abord te prier, te demander, Seigneur, envoie des ouvriers. Et très certainement, oui, il y a quelque chose pour nous et nous nous attendons à ton appel. Merci encore, Seigneur, parce que ta grâce est tellement abondante. Et quand tu dis que la moisson est abondante, c'est une bonne nouvelle. Cela veut dire que tu veux sauver beaucoup de personnes. Et nous-mêmes, nous ne devons pas oublier que cette mission dans laquelle tu veux nous faire participer, c'est aussi une grâce. Nous ne le méritons pas, Seigneur. Nous ne sommes pas qualifiés pour ça. Mais c'est toi qui peux nous qualifier, c'est toi qui peux nous équiper. Que nous puissions être plus sensibles à ce que tu veux nous dire et là où tu veux nous envoyer. Et nous prions tout cela au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.